Merci, merci beaucoup. C'était passionnant. Je trouve qu'il y avait beaucoup d'écho entre vos deux conférences. Et en même temps, voilà, en étant tout à fait complémentaires. Alors, ce que je vous propose, c'est, c'était pas prévu initialement, d'organiser un petit débat, là, dans la petite vingtaine de minutes dont nous disposons, d'une part sur un plan pratique, puisque le déjeuner n'est prévu qu'à 12h30, et puis d'autre part sur un plan intellectuel. Ça me paraîtrait dommage de ne pas profiter de cet échange qui pourrait y avoir entre la salle et nos deux conférenciers. Donc voilà, Hélène va vous passer le micro s'il y a quelques questions, remarques.
Bonjour, je remercie les deux conférenciers pour leurs propos très intéressants. J'avais une question sous forme de remarque l'exposé sur l'indifférenciation sexuelle. J'ai trouvé intéressant l'historicisation et le fait de montrer que cette question revenait régulièrement quand il était question des manuels scolaires. Mais il y a une chose qui me semble qui pourrait être ajoutée dans les éléments qui expliquent quand même le surgissement de cette théorie du genre telle qu'elle est formulée notamment par l'Église ou d'autres milieux conservateurs, qui est quand même qu'il existe une ligne de front politique dans le mouvement social et dans la théorie du genre, enfin dans les différentes conceptualisations du genre, qui s'est déplacée pour partie de la question de l'égalité vers la question de l'indifférenciation, et notamment... notamment sous l'impulsion des théorisations queer qui sont et j'y pense aussi parce que c'est un enjeu politique pour la jeunesse, enfin parce que beaucoup de jeunes justement dans les plus jeunes générations politisées autour des questions de genre et de sexualité se définissent aussi leur engagement sur la question de l'indifférenciation, que en fait l'objectif c'est l'indifférenciation sexuelle plus que, enfin pas plus que, mais que c'est par l'indifférenciation sexuelle que passe justement l'égalitarisation entre les sexes, par la disparition du sexe et du genre. Et c'est aussi quelque chose qu'on retrouve, y compris chez des féministes matérialistes, différemment, mais par exemple Delphi disant « le féminisme, c'est le combat des femmes qui ne veulent pas être des femmes ». Enfin, la question quand même de l'indifférenciation sexuelle, la disparition du sexe et du genre pour justement mettre à bas les régimes de genre, l'ordre du genre. Et du coup, je trouvais que dans la présentation, qui devait être rapide, hein, je sais bien, du discours scientifique, il y avait quelque chose d'un peu trop homogène, parce que justement, tout le monde, y compris dans cette salle, je pense, n'entend pas le genre de la même façon, et le genre n'est pas forcément qu'une question d'inégalité entre filles et garçons. Voilà. Donc c'était juste sur cet aspect-là.
Je souscris à 200% à votre remarque. Effectivement... c'est qu'à partir du moment où j'ai commencé à traduire mon diaporama, que je me suis rendu compte que je n'avais pas fait un truc que je fais d'habitude, à savoir définir les termes de sujet. Ça, c'est mon côté cagneuse qui ressort. Mais vous avez raison sur la question de l'indifférenciation. Le terme en lui-même mériterait qu'on s'y arrête et pour rendre compte de ce que vous dites. Parce que l'indifférenciation, ça peut être l'indifférence aux différences. Qu'elles existent, voilà, que à la limite c'est pas le problème, c'est pas la question, ou ça peut être autre chose qui serait de dire somme toute que dans une perspective effectivement, on va dire féminisme troisième vague pour aller vite, que on performe sa féminité, sa masculinité comme on veut, et qu'à partir de là, la différence du sexe ou du genre n'est pas le sujet de la réflexion, que peut-être il faut en passer par une renonciation aux catégories pour arriver à promouvoir une vraie réflexion sur l'égalité. Alors je suis tout à fait d'accord avec votre remarque, et c'est peut-être là que peut se glisser la remarque un peu que j'ai faite vite fait en introduction, pour dire qu'aujourd'hui, par exemple, dans la formation des enseignants, on faisait de la culture de l'égalité filles-garçons. Parce que la culture de l'égalité filles-garçons, je trouve que c'est une formulation qui est extrêmement intéressante, notamment parce qu'elle permet de resignifier que dans la perspective de la réflexion sur l'égalité à l'école, on rappelle à l'ordre de la bicatégorisation. On ne renonce pas à ça. Et pour moi, c'est pour ça que cette dénomination de nos enseignements culture de l'égalité filles-garçons, elle me pose un certain nombre de problèmes. J'ai un problème avec égalité filles-garçons, parce que il y a, enfin moi je le vois pour avoir vu, la semaine dernière j'avais des profs de SVT en formation sur ces questions-là, quand on commence à leur montrer que dans l'histoire de la recherche du lieu de la différence, c'est les travaux de Delphine Gardet et d'Ilana Levy, quoi, qu'on cherche le site de la différence et que plus on cherche, moins on trouve, et que du coup, la bicatégorisation des sexes en biologie, elle est peut-être beaucoup moins évidente que ce qu'on pense. Alors, d'une part, ça intéresse les profs de bio nettement plus que le catéchisme. J'utilise volontairement ce terme-là, mais le catéchisme sur, vous disiez tout à l'heure, l'homophobie, c'est pas bien, le sexisme, c'est pas bien, il faut être gentil avec les filles et traiter aussi bien les garçons. Bon, ça les intéresse, on les perd assez vite avec ce genre de discours-là. Et puis surtout, je trouve que ça a une vraie efficacité. Ça a une vraie efficacité de revendiquer pour la peine la possibilité de l'indifférenciation, y compris au plan biologique, parce que ça ouvre des perspectives politiques sur ce que sont ces catégories, à quoi elles servent et comment éventuellement... peut-être que la meilleure manière de promouvoir l'égalité entre les catégories, c'est encore de se débarrasser des catégories. Mais ce n'est pas du tout ce qu'on fait dans le cadre de la formation des enseignants. Du tout. Alors peut-être que là où vous avez raison, mais il faudra que je voie avec un peu l'expérience... Parce que les enseignants qu'on a en formation relèvent un peu de la jeunesse. Peut-être qu'on aura... Mais pour l'instant, en tout cas, moi, j'en ai rarement croisé dans ces formations-là. Je les croise en master genre, par exemple. Les étudiants qui sont politisés et qui, du coup, réfléchissent sur ces questions-là dans une perspective queer. Il me semble que dans un cadre plus, je ne sais pas comment dire, classique, enfin, ce n'est pas la bonne manière de dire, mais voilà, j'ai déjà l'impression de beaucoup les défriser en leur disant que XX ou XY, ce n'est peut-être pas l'alpha et l'oméga du sexe. Voilà. Revendiquer l'indifférenciation, c'est de la stratégie hein, aussi, hein, stratégie politique, hein, mais du point de vue d'où je parle, à savoir former des gens... Dans le monde de l'enseignant, c'est peut-être un manque de courage de ma part, hein, mais pour l'instant, j'y suis pas allée en ces termes-là, quoi.
J'avais une petite question pour Michel Boson. J'ai adoré votre présentation. Elle était vraiment très enrichissante et passionnante. Et j'avais une petite question par rapport aux violences sexuelles et par rapport, puisque les rapports sexuels commencent plus tôt, les violences sexuelles commencent aussi. Très tôt, et comment est-ce que, justement parce que vous parliez du discours des parents, du discours de la mère, du discours des institutions, comment est-ce qu'il peut y avoir parfois peut-être une panique par rapport à ça, ou alors une invisibilisation totale de ces violences sexuelles-là, et comment est-ce qu'elles participent aussi de la construction, de l'entrée dans la sexualité des jeunes filles? Je ne sais pas si vous avez travaillé là-dessus.
D'autres. J'aurais à la limite une question complémentaire à Michel Boson, qui est celle du rôle relatif des pères et de la mère, c'est-à-dire des pères PIRS et de la mère MERE, sur la question des représentations de normées. Évidemment, des représentations de la bonne sexualité à l'entrée dans la vie sexuelle active. De quelle manière est-ce qu'on constate un effacement de l'une par rapport aux autres, à la montée des normes indirectes, d'expression des normes indirectes des autres, ou pas? Est-ce que c'est, et notamment les enquêtes ESF, est-ce qu'elles visibilisent ce genre de variable?
Ça marche, ça? Ah oui. Les violences sexuelles sont une expérience que subissent des filles et des garçons dès leur enfance, hein, bon, et qui dépend principalement d'adultes de la famille, hein, dans un premier temps. Je crois qu'il ne faut pas oublier ce premier élément, hein, et donc c'est le un premier point qu'il est jamais facile de traiter, alors que la famille veut bien penser, et les mères par exemple, les dangers de violence sexuelle comme un danger venant de l'extérieur. Hein, et tout ça s'exprime assez fortement dans des règles de socialisation qui restent durablement différenciées dans les autorisations de sortie avant 18 ans. hein, par exemple, hein, qu'on a pu analyser et qui sont extrêmement genrés, avec toujours l'idée du danger de violence subie par les filles, d'où la préférence pour les parents que les copains soient présentés. Hein, bon. C'est-à-dire que c'est un élément qui n'est pas seulement un élément d'ouverture, mais qui est un élément de contrôle, très directement. Savoir qui va la ramener, hein, qui va la ramener le soir. Cet élément est intégré, et je dirais que comme tous ces discours éventuellement de la mère, il fonctionne parce qu'il va de pair avec d'autres discours sociaux sur les dangers de l'espace public, hein, bon, et donc qui vont dans le même sens et qui créent des peurs et des anxiétés particulières. Je dirais que dans le même temps, il n'y a pas un discours très fort dans l'institution scolaire, hein, c'est-à-dire et notamment par exemple sur les dangers de violence dans les relations intimes installées, hein, c'est-à-dire que les dangers de violence sont pas, comme on le sait, avec des inconnus dans l'espace public, il y a un risque de harcèlement sexiste, mais sur les violences les plus fortes, c'est plutôt les partenaires intimes. Et il n'y a absolument rien du tout dans des enseignements scolaires sur ce point-là, c'est-à-dire une sorte de critique des relations et des rapports de pouvoir qui sont à l'origine de la violence. Hein, toujours pour me situer aussi dans un esprit un peu positif, éducation. Voilà ce que je pouvais dire dans un temps. Alors, j'ai une question sur les pères et la mère et la bonne sexualité. Je crois que c'est une question qui porte plutôt sur les filles, non ? Non, c'est...
Oui, si c'est la mère, oui. Si c'est les pères à IRS, on peut estimer, j'imagine, que...
Non, mais les filles fréquentent beaucoup leurs pères aussi. Et il y a des groupes de pères très, très organisés qui suivent la progression des filles dans la carrière, dans la carrière amoureuse. Hein. Je veux dire que si vous aimez les films, je suppose que vous avez vu un film qui s'appelle « Et toi, t'es sur qui ?» hein, bon, qui est un film de, je ne sais pas quel est son prénom, Doyon, du début des années 2000, et qui est donc le récit d'un certain nombre de filles qui veulent absolument pas passer l'année sans avoir eu un premier partenaire sexuel, hein, parce que il y en a une dans la classe qui a commencé, bon, donc on la traite au début de grosse salope, mais bon, après, bon, c'est l'envie qui l'emporte, et il s'agit de la rattraper pour pas être la vieille fille, bon, qui est l'autre chose qui risque d'arriver si on tarde trop. Donc il y a des effets de synchronisation, hein, dans les groupes de pères féminins. Alors je dirais, bon, c'est une hypothèse que je fais, que alors que les garçons fonctionnent sur le « je veux pas rester un petit ou un bébé », les filles, c'est quelque chose d'un petit peu différent, c'est « je veux être complète ». Hein, c'est plutôt pour être complète. Il faut avoir fait un certain nombre de choses, donc dont avoir un homme qui vous complète. Dans une certaine idéologie de la construction de la féminité dans la socialisation primaire. Ce qui est quelque chose d'un petit peu différent des garçons. Les garçons, ils peuvent revenir en arrière, ils peuvent redevenir des petits après avoir été grands. Mais une fois qu'on est complète, qu'on a eu un homme ou qu'on a eu un enfant... On accède à des degrés de complétude plus forts. Bon, alors, ce que je dirais, c'est que les maires vont plutôt donc dans le sens, que, comme je l'ai indiqué, de prendre son temps, d'avoir le bon âge, d'attendre, d'être sûr de soi, d'être bon, ce qui est, comme je l'ai dit, assez bien intégré par les filles dans les débuts. Ça fait pas partie du langage des pères, ça. Les pères, c'est plutôt voir un petit peu ce que font les autres. Ensuite, dans les relations qui suivent la toute première, il y a autre chose qui se passe, c'est-à-dire qu'il y a une évaluation critique, qui peut prendre la forme de du désenchantement. Ça s'est pas passé comme on voulait. Et ben maintenant. On va voir ce qu'on va voir. Des enchantements très productifs. C'est la déception qui fait que on va voir ce qu'on va voir. On peut se mettre à aller sur Internet justement pour vérifier qu'on n'est pas nul. Les conseils de la mère et les conseils d'attendre, de prendre son temps, ne valent plus du tout. À ce moment-là. C'est-à-dire que c'est une autre étape biographique. C'est pour ça que je veux un petit peu décomposer ce qu'on appelle quelquefois la jeunesse, quelquefois l'adolescence. Mais en fait, c'est deux périodes un peu différentes, si on veut bien distinguer. Et où on s'éloigne en partie de la rigidité de la socialisation primaire. Mais ça ne dure pas parce que après on est rattrapé par le couple cohabitant là avec le premier enfant le genre retombe comme une chape de plomb c'est pour ça que je décris le processus comme éminemment discontinu
Juste une question. Vous n'avez pas beaucoup parlé de la variation sociale de ces calendriers, de ces orientations normatives. Alors, je comprends très bien que vous ayez voulu faire un tableau général. Mais là, maintenant qu'on a un petit peu de temps, est-ce que vous pourriez nous dire quels sont les travaux sur lesquels on peut s'appuyer pour cerner ce qui est en cause, en particulier dans les familles de milieux populaires issus de l'immigration musulmane.
On a des gens qui ont travaillé là-dessus, même dans cette salle, dont j'ai cité le nom au début, j'ai pas développé les travaux, parce que j'ai plutôt voulu donner quelques exemples. Je pense que le problème, c'est un petit peu la manière dont on analyse ces comportements. Il y a un point de vue, je dirais, qui est un petit peu celle d'une autre personne dans la salle, qui ne met pas forcément en avant le caractère musulman, mais plutôt le caractère de classe populaire, d'environnement de vie, de vivre dans des cités. Comme quelque chose qui construit à la fois, je dirais peut-être des univers un petit peu séparés, où par exemple les questions de réputation des filles jouent un rôle durablement important, mais c'est lié aussi au fait d'être dans des quartiers un peu relégués. C'est des choses qui se construisent comme ça, plus qu'à des spécificités culturelles liées à ces classes populaires qui, par ailleurs, sont largement d'origine musulmane, dans un type de travaux auquel je pense. Un autre type de travaux sur des jeunes Marocains, à Strasbourg et en Italie, qui étudient peut-être plus le point de vue des garçons et la manière dont ils arrivent à donner sens à leur comportement, qui, pour une part, sont en rupture, en contradiction avec ce que la religion leur recommanderait, mais qu'ils arrivent à réintégrer, analyser dans un sens qui va toujours dans un sens hétéronormatif, hein, bon, qui réaffirme, bon, par exemple, avec le fait d'avoir des rapports non halal, hein, on va dire, c'est-à-dire pas avec une partenaire avec qui on est marié, au moins, on peut traiter le problème. On peut traiter le problème. Il y a des descriptions qui sont données de ça, hein, pour s'en tirer. D'une certaine manière, avec la religion, on peut toujours faire beaucoup plus de choses qu'on ne croit. Hein, bon. Donc là encore, pour ne pas enfermer dans l'idée d'une religion qui réduit les choses, en revanche, dans des univers socialement relégués, entre soi, on peut faire beaucoup moins de choses. Bon, c'était une orientation d'analyse, hein, que je proposais, hein, plutôt, hein, pour pas aller tout à fait dans un sens qu'on dirait en sociologie culturaliste.
Moi, je voudrais juste rajouter une toute petite chose qui va tout à fait dans votre sens, parce que quand on travaille sur les questions de culture, d'égalité filles-garçons, on s'interroge sur la question de l'échec scolaire. Et il y a aujourd'hui des travaux qui, effectivement, vont plutôt à rebours de cette tendance culturaliste pour expliquer l'échec scolaire, qu'on va dire préférentiel, parce que, enfin, faute de mieux, l'échec scolaire préférentiel des garçons des classes populaires. Parce qu'il y a eu, il y a eu tout un moment où on a dit l'échec scolaire des garçons. D'abord, il y a un échec plutôt des garçons que des filles à l'école. Et ensuite, cet échec scolaire, il est, on va dire, ethniquement coloré, pour dire les choses comme ça. Et on a pu voir là, en tout cas, c'est des interprétations qui, évidemment, ont rencontré un certain succès, la marque d'un problème de respect de l'autorité quand elle était féminine. Donc ça permettait comme ça de se faire pour le même prix et la communauté musulmane et la féminisation de l'enseignement. Comme ça, à tous les coups, on gagne. Il y a quand même des travaux intéressants aujourd'hui qui montrent que c'est bien davantage une question de classe populaire que de confession religieuse. Et je pense que du coup, c'est éclairant aussi pour penser les questions de sexualité, qui a là un problème, on va dire, de définition des contours de la masculinité et de la féminité, et que la définition de ces contours, elle est à la fois plus stricte et plus univoque dans les classes populaires que dans d'autres milieux sociaux, et que dès lors qu'on peut composer une identité masculine plus diverse, parce qu'on appartient à un milieu social plus favorisé, et qu'on a, je suis pas sociologue, mais disons des capitaux culturels et symboliques plus variés, eh ben, on peut arriver à être à la fois bon élève et garçon. Enfin, on n'abdique pas son identité masculine en devenant un bon élève, ce qui est plus difficile à faire quand on a un capital social, une masculinité qui est plus univoque et donc dans des milieux moins favorisés. Et je suis presque sûre que ça peut aussi marcher sur les questions de sexualité. Bon, je sais pas. On va y réfléchir, mais disons qu'être tendre et en même temps un amant performant et tout ça, c'est peut-être des identités qui sont davantage possibles dans certaines conceptions de la masculinité que dans d'autres, et donc dans certaines classes sociales plutôt que dans d'autres.
Merci beaucoup. Une dernière question. Berthe de Der.
Peut-être ça peut être intéressant de noter que le reproche de coéducation est était un des plus virulents à certaines époques contre les expériences d'éducation nouvelle. Par exemple, Ferrer, en Espagne, c'est-à-dire on présentait les pédagogies actives comme des tentatives de démoralisation des mœurs, de tout ce qu'on entend aujourd'hui. Donc, en effet, ces pédagogues s'opposaient à la fois. Il y avait, comment dire, une attaque à la fois contre la hiérarchie maître-élève et contre la hiérarchie homme-femme dans les cas de coéducation. Et souvent, les organisations laïques étaient présentées comme pour parler vulgairement, de vastes bordels. Il y avait une sorte de concurrence entre le privé et le public sur le plan de la moralité. À certaines
époques. Merci pour cet ultime commentaire. Je vous propose à présent, pour ceux qui sont inscrits, les ateliers commencent. Aujourd'hui, on doit avoir 4 salles qui nous sont dévolues. Et dont vous trouverez la numérotation sur votre programme. Merci beaucoup.